Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. 2020, alors que la pandémie met l'économie mondiale à l'arrêt, deux entreprises pharmaceutiques, l'américaine Pfizer et l'allemande BioNTech, mettent en commun leurs compétences scientifiques, leur savoir-faire et leurs moyens économiques pour travailler sur un vaccin. La suite de la success story est connue, puisqu'une grande majorité d'entre nous a reçu au moins deux doses de leur vaccin dans le bras. 2020 est également l'année choisie pour créer au sein de l'Université de Montpellier la chaire CoO-Innov pour coopétition et écosystème d'innovation. Son objectif ? Favoriser les échanges, la diffusion et la création de connaissances entre les chercheurs, les managers et les étudiants sur la collaboration et la compétition dans les écosystèmes d'innovation. Cette chaire s'appuie bien sûr sur une expertise scientifique puisque ses deux cofondateurs, Frédéric Leroy et Anne-Sophie Fernandez, sont tous les deux professeurs d'université à Montpellier Management et chercheurs en sciences de gestion. Elle s'appuie également sur deux observatoires, l'Observatoire de l'innovation et l'Observatoire des alliances et partenariats. Nous avons déjà reçu la chaire CoInnov pour parler d'innovation verte, de pôle de compétitivité ou encore de coopétition. Nous les recevons cette année encore à l'occasion de la sortie d'un nouveau rapport visant cette fois à quantifier les stratégies d'innovation des entreprises françaises. Alors pour suivre l'évolution de cette innovation en France, ce rapport propose quatre axes. L'importance de l'innovation dans la stratégie des entreprises françaises, l'approche de ces entreprises pour innover, le choix de leurs partenaires principaux et les défis qu'elles doivent relever pour innover. On en parle avec nos deux invités. Frédéric Leroy, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science. Vous êtes donc le cofondateur de la chaire CoInnov. Vous êtes professeur à Montpellier Management et à la Montpellier Business School. C'est bien ça ? Parfait. Camille Bilstein, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chargée de développement au sein de la chaire CoInnov. Et bienvenue dans Allume la science également.
Merci.
Alors, comme on l'a dit, il y a eu Pfizer et BioNTech, il y a eu McDonald's et Coca-Cola, Volvo et Jean-Claude Van Damme. Et bien sûr, il y a eu Lucie et Aline, donc Aline Perriot, toujours en studio pour mener
Bonjour.
Cette interview. Bonjour Aline. Pas de reportage aujourd'hui, mais un invité de dernière minute qui viendra nous parler du climat Libétour qui se déroule les 13 et 14 décembre prochains à l'Hôtel de Ville et à la Faculté d'économie de l'Université de Montpellier. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Donc l'enjeu de ce rapport, on l'a dit dans l'introduction, est de quantifier les stratégies d'innovation des entreprises françaises. Dans ce but, vous avez donc créé l'Observatoire de l'innovation. Alors pourquoi on manquait de données sur ce sujet jusqu'à maintenant, Camille Bilstein ?
Oui, effectivement, l'innovation collaborative, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus présent dans les industries. C'est pour ça qu'a été créée la chaire, hein. On l'a étudié plusieurs fois dans nos rapports, dans nos études de cas, en prenant à chaque fois des exemples particuliers, avec des projets particuliers, des partenaires, des types de collaborations particulières. C'est vrai qu'il y avait quand même un manque de généralisation de ces résultats-là. Il y a des choses qui existent déjà, comme l'enquête CIS, par exemple, mais souvent, l'aspect collaboratif, il est assez moindre. Et souvent aussi, on mesure l'innovation avec des indicateurs précis comme les brevets. Et ces indicateurs-là, souvent, ils sont quand même pas suffisants pour mesurer des processus complexes comme l'innovation collaborative. Donc voilà, peu d'études vraiment qui mesurent concrètement ce phénomène-là. Donc d'où l'idée de créer un observatoire pour quantifier l'innovation et plus particulièrement l'innovation collaborative en France.
Alors justement, plus particulièrement l'innovation collaborative, Frédéric Leroy, est-ce que vous pourriez nous préciser un peu mieux de quoi il s'agit ?
Oui, donc nous, on se centre sur l'innovation collaborative inter-entreprise. On n'est pas sur l'innovation collaborative interne. Donc ce qui nous intéresse, c'est de voir, de sortir justement de cette idée d'innovation interne, qu'on appelle nous des stratégies individuelles pour innovation, et voir s'il existe des stratégies collectives, c'est-à-dire si... dans quelle mesure les entreprises vont travailler ensemble, que ce soit de façon verticale avec les clients et les fournisseurs, ou de façon horizontale avec leurs concurrents, ou avec des institutions comme les laboratoires de recherche ou les universités. Donc c'est l'idée de on pourrait dire collaboration pour innovation interorganisationnelle.
Alors, pour réaliser ce rapport, vous avez fonctionné par questionnaire, mais justement, pour élaborer ce questionnaire, vous avez procédé à des entretiens. Alors, auprès de qui et pourquoi ?
C'est vrai que souvent, avant de construire un questionnaire, on a une phase préalable d'interview et d'entretien plutôt qualitatif. Là, dans ce cas-là, donc, on a réalisé 12 entretiens auprès d'acteurs d'entreprises, par exemple, qui avaient des projets d'innovation en cours. Ça a été surtout toutes sortes d'entreprises de tous secteurs confondus. On a eu des start-up, des PME, des ETI, aussi des grands groupes. On a aussi eu des dirigeants de structures comme des pôles de compétitivité ou des clusters. Et vraiment, l'objectif, c'était de construire notre questionnaire de la manière la plus complète possible. Oubliez aucune question, oubliez aucune proposition. On avait déjà, bien sûr, des premières idées de ce qu'on allait mettre dedans. Mais là, c'était vraiment ces entretiens pour venir compléter le questionnaire et qu'il soit le plus exhaustif possible.
Alors, à la suite de ça, vous avez donc bâti un questionnaire qui comprend 4 sections et que vous avez distribué à 200 entreprises. Est-ce que là également, vous avez ciblé tout type d'entreprise ? Tout le monde était représenté ?
Alors oui, on a mis un point d'honneur à essayer de se rapprocher le plus possible de la population mère des entreprises qui étaient susceptibles d'innover. J'insiste sur ce point-là parce qu'en fait, on a exclu les micro-entreprises qui représentent quasiment 98% des entreprises françaises. Et on a souhaité les exclure parce que, selon nous, c'était des entreprises qui avaient des caractéristiques qui ne nous intéressaient pas forcément dans cette étude et qui étaient moins susceptibles d'innover que les autres. Donc, on a, à partir de cette population-là, soumis des quotas pour se rapprocher le plus possible de la population mère, les quotas qui sont dans le rapport. Et également, on a ciblé des profils particuliers de répondants qui sont les chargés de projet, les directeurs des entreprises, les directeurs d'innovation ou les directeurs des alliances, qui sont des profils qui sont au courant des projets d'innovation dans leur entreprise.
Alors, on va rentrer un peu plus dans l'étude maintenant. Vous vous êtes intéressé à la dynamique réelle de l'innovation dans les entreprises françaises. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler de l'innovation, mais est-ce qu'elles le font vraiment ? Donc, selon vos résultats, 73% des entreprises ont un projet d'innovation en cours. Frédéric Leroy, de quel type d'innovation on parle ?
Alors, évidemment, on parle d'innovation produit, mais on n'a pas voulu en rester là. On a aussi travaillé sur tout ce qui était innovation de processus, innovation de production, et également, est-ce que c'est des innovations vertes ou pas. Donc on essayait d'envisager toutes les formes d'innovation, tout en restant quand même dans un aspect économique. Par exemple, on n'a pas étudié l'innovation sociale. On est resté assez proche des définitions du manuel d'Oslo, distinguant innovation de produit, innovation de procédé, innovation radicale, innovation incrémentale, innovation verte. Voilà, notre définition d'innovation est assez classique, en fait.
C'est quoi le manuel d'Oslo ?
Le manuel d'Oslo, c'est un manuel qui, au niveau européen, définit ce qu'on entend par innovation et qui a défini ces catégories-là.
Et alors, vous êtes aussi aperçu, avec les résultats de ce rapport, qu'il y a 27% des entreprises qui n'innovent pas. Comment est-ce qu'elles justifient le fait de ne pas innover, Frédéric Leroy ?
La première raison, c'est qu'elles estiment qu'elles n'en ont pas besoin. Donc, elles nous disent, et c'est la raison principale pour elles, que sur leur marché et par rapport à leur compétitivité, il suffit qu'elles reproduisent ce qu'elles font déjà. Et ensuite, elles considèrent que c'est trop coûteux. C'est-à-dire que même si elles considèrent que c'est nécessaire d'innover, le rapport coût-bénéfice ne leur semble pas favorable. Et également, associé à la dimension de coût et à la dimension de risque. Et c'est vrai que l'innovation, c'est prendre des risques parce qu'on ne sait pas quel va être le résultat. Et enfin, il y a la peur d'innover parce qu'il y a eu des échecs dans le passé. Et donc, à partir de là, ils n'ont pas envie de reproduire les échecs.
Alors, pour lever les freins, justement, les entreprises, elles peuvent choisir deux stratégies, une stratégie individuelle ou une stratégie collaborative. Pour commencer, en quoi consiste la stratégie individuelle ? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples ?
La stratégie individuelle, c'est celle qui a été pratiquée tout au long du XXe siècle. Elle est née au XIXe avec l'invention du laboratoire de R&D. Pour nous, ça nous semble évident aujourd'hui. Mais non, c'était dans la pharmacie, notamment en Allemagne. On a commencé à embaucher des chimistes, des ingénieurs, puis des docteurs un jour pour développer en interne toute la recherche dont on avait besoin. Et ce modèle, il est dominant au XXe siècle. Et c'est fin XXe et début XXIe qu'il commence à être mis en cause, puisqu'on voit bien, dans l'affaire notamment du vaccin, c'était très coûteux, très risqué, et il fallait aller très vite. Et ce n'est pas une stratégie individuelle qui a permis ça. Je crois que Sanofi a mené une stratégie individuelle. Et le vaccin, on l'attend toujours, ou alors il vient à peine de sortir, quoi. Donc c'est le modèle dominant, faire toute la recherche sur l'innovation en interne, en considérant que ce qu'on fait, c'est mieux que ce que font les autres, quoi.
Alors à l'inverse, on peut aussi opter, on en a parlé tout à l'heure, pour la stratégie collaborative. Camille Bilstein, est-ce que vous pouvez nous exposer un peu les avantages et les inconvénients d'opter pour ce mode-là ?
Oui, donc la stratégie collaborative, là, les entreprises, elles vont vraiment compter sur des ressources externes en plus de leurs propres ressources en interne. Et ça, notamment, ça va leur permettre d'innover plus efficacement, d'innover plus rapidement et surtout d'innover, si c'est leur souhait, plus radicalement pour répondre aux grands challenges qui sont contemporains, qui sont très importants et qui demandent aux entreprises d'innover. L'éducation, l'écologie, voilà, des choses comme ça. Donc là, elles vont vraiment compter sur des ressources supplémentaires pour arriver à ces objectifs-là. Bien évidemment, il y a aussi des inconvénients, on les a mesurés dans l'observatoire, mais rapidement, la coordination entre les partenaires, comment est-ce qu'on protège sa connaissance, comment on partage la valeur créée. Et donc, je vous donne un exemple pour reboucler sur ce que disait Frédéric. Si on prend l'industrie de l'automobile, par exemple, au XXe siècle, on était sur des enjeux de production de masse, très standard, des choses comme ça. Donc ça, les entreprises, elles pouvaient le faire seules. Et aujourd'hui, donc, avec ces grands enjeux contemporains, on est beaucoup plus sur des enjeux de haute technologie, les véhicules électriques, l'intégration de l'intelligence artificielle. Et ça, les entreprises, elles ont du mal à le faire seules. Et donc, je peux vous donner un exemple qui est le dernier cas qu'on a sorti avec la chaire Coinnov, qui est la collaboration entre Sony et Honda, qui leur a permis, ensemble, de co-développer un véhicule électrique autonome.
Alors, en France, la majorité des entreprises qui innovent déclarent innover seules, 62% exactement. Dans les questionnaires, quelles ont été les justifications de ce choix, Camille Bilstein ?
Alors la principale raison, c'est que les entreprises disaient qu'elles n'avaient pas besoin de collaborer et qu'elles pouvaient innover seules. Donc c'est-à-dire qu'elles estiment que leurs ressources internes seront suffisantes pour développer l'innovation en question. Ensuite, la deuxième raison, c'était que ces entreprises-là, elles avaient peur des processus collaboratifs, surtout du fait du partage des connaissances et des savoir-faire à d'autres organisations, à d'autres entreprises. Et après, il y a tout un tas d'autres raisons qu'on a présentées aux entreprises. Elles nous ont donné leur degré d'accord avec. Mais vraiment, la principale, c'est qu'elles estiment ne pas en avoir besoin, pas avoir besoin de collaborer pour innover.
Alors, à l'inverse, ceux qui estiment, eux, avoir besoin de collaborer pour innover, ils le justifient comment ? Vous leur avez posé également la question ?
Oui, et là aussi également, il y a une raison principale qui ressort pour 89% des entreprises qui collaborent. C'est vraiment pour avoir accès à des compétences spécifiques et particulières qui vont permettre de nourrir leur propre processus d'innovation et encore une fois d'aller soit plus vite, soit plus loin, soit de partager les risques, soit de partager les coûts.
Est-ce que c'est toujours avec comme objectif de mettre un nouveau produit ou un nouveau service pour le marché, ou est-ce que ça peut être justement uniquement pour avoir des nouvelles compétences ou pour nouer des nouvelles relations ?
L'objectif initial, je pense que c'est pour innover et mettre sur le marché un nouveau produit ou un nouveau process ou autre. Mais c'est vrai, et ça on l'a vu dans notre précédent rapport, que même si in fine, à la fin de la collaboration, il n'y a pas la mise sur le marché de ce produit, c'est pas grave, les entreprises, elles arrivent quand même à en tirer des enseignements, elles ont accès à de nouvelles compétences, et même si ce projet au final pourrait être vu comme un échec, c'est pas un échec parce que ça leur a quand même permis d'apprendre et pourquoi pas ensuite de retenter l'aventure de la collaboration et de collaborer avec d'autres entreprises.
Frédéric Leroy, quand on choisit de coopérer, on le fait forcément du début à la fin, ou alors on peut le faire que pendant la phase recherche, que pendant la phase développement, que pour une mise sur le marché par exemple ?
Oui, la collaboration en fait, elle peut se faire sur différents maillons de la chaîne de valeur d'une entreprise. Elle peut être centrée sur un projet spécifique affectant un pourcentage faible du chiffre d'affaires. Mais, et souvent, c'est plutôt sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir un projet de collaboration qui va être mené en commun. Mais ce projet de collaboration, il peut amener aussi à collaborer sur le maillon de la chaîne de valeur supérieure. Et donc, on peut voir aussi un développement d'une collaboration généralisée. Donc, on a tous les cas de figure. Si vous prenez Airbus, aujourd'hui, c'est un grand groupe intégré. Mais au départ, c'était de la collaboration entre plusieurs concurrents. C'était un consortium et qui se sont mis à coopérer de plus en plus au point de s'intégrer. Mais ça reste un cas rare. On peut collaborer en marketing, on peut collaborer sur des process de production, on peut collaborer sur l'approvisionnement, on peut collaborer. Il y a tout un tas de... Toutes les activités de l'entreprise interne sont autant d'occasions en fait de collaborer.
Et alors vous parlez également de ce que vous appelez le mixte stratégique, c'est-à-dire d'associer à la fois les innovations individuelles et les innovations collaboratives. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pratiquent ce mix-là ?
À peu près toutes. Enfin, quand on rentre dans la collaboration, on fait un mix, c'est-à-dire qu'on va... si vous prenez une société qui va implanter des ERP, par exemple, elle va essayer de le faire toute seule. Si elle n'y arrive pas, si c'est une offre complexe et qu'il faut un minimum d'innovation, donc elle va le faire avec une autre entreprise, voire avec un de ses concurrents. Et donc les entreprises, elles ont une espèce de portefeuille de projets. Et dans ce portefeuille, il peut y avoir des alliances avec une université sur un projet, dans un autre projet, une alliance avec un concurrent, dans un autre projet, une alliance avec un fournisseur. Et également, dans ce portefeuille, des projets menés de façon individuelle. Leur préférence va toujours au fait de mener un projet individuel, parce que c'est comme ça qu'ils capturent toute la valeur du projet. Mais des fois, elles calculent que pour certains projets, il vaut mieux y aller ensemble, gagner le marché. En gros, je dirais faire grossir la tarte et se répartir ensuite la tarte, quoi. Mais ils calculent que c'est plus intéressant, il y aura plus de valeur créée pour eux en collaborant. Donc c'est évalué à chaque fois par les entreprises. Est-ce qu'on y va tout seul? Est-ce qu'on y va à deux? Avec qui on y va? Et on fait des calculs comme ça en se disant, là, notre calcul fait que c'est beaucoup plus intéressant de partir en collaboration, ou pas.
Alors se pose ensuite la question d'avec qui collaborer. Vous évoquez donc plusieurs types de collaboration, parmi lesquelles il y a la collaboration verticale, comme l'ont pratiqué par exemple les fabricants de chaussures Salomon, Millet et Babola, qui eux ont décidé de collaborer avec leurs fournisseurs, c'est ça? Alors, quels sont les avantages de ce type de collaboration verticale ?
Alors, la collaboration verticale, et c'est un des résultats un peu saillants du rapport, c'est que c'est la plus pratiquée parce qu'au départ, il y a une transaction, il y a une relation marchande, client-fournisseur, en business to business. Et sur la base de cette collaboration, les gens se connaissent. Et quand vous êtes une entreprise et que vous voulez mener un projet innovant, si votre fournisseur vous fournit des composants innovants, ça vous aide aussi. Et des composants adaptés à votre innovation. Donc petit à petit, comme il y a eu beaucoup d'externalisation, beaucoup de recours à sous-traitance, petit à petit, c'est difficile d'être innovant tout seul. On va collaborer avec son fournisseur pour qu'il soit intégré dans le processus d'innovation, pour qu'il nous fournisse les composants innovants dont on a besoin pour notre produit innovant.
Là, les trois marques avaient le même fournisseur, c'est ça ?
Oui, ils cherchaient, ils avaient besoin d'un composant commun, et ils ont groupé leurs achats, et ils ont travaillé avec le fournisseur, pour ainsi avoir ce composant innovant, mais qui soit adapté à leur propre produit, en fait. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'intégrer le fournisseur dans son propre processus d'innovation, parce que sinon, il ne va pas nous fournir ce dont on a besoin, en fait.
Et est-ce que dans ces cas-là, on passe par exemple des clauses d'exclusivité, c'est-à-dire qu'on bosse avec le fournisseur, mais il ne fournit que ces trois marques-là et c'est tout, ou après, il est libre ?
Justement, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que a priori, on cherche l'exclusivité, mais des fois, on a tellement besoin de lui que non. Mais il y a des contrats, c'est pour ça qu'il y a une base contractuelle très forte, notamment sur tout ce qui est propriété intellectuelle. Et c'est un des grands enjeux d'innovation collaborative, c'est qui est propriétaire de la connaissance qu'on a créée ensemble, sachant qu'une grande partie de cette connaissance peut être complètement implicite et tacite, et elle peut même être utilisée dans d'autres projets sans que le partenaire le sache. Donc ça c'est un grand enjeu et c'est souvent ce dont ont peur les entreprises. C'est plus clair souvent dans la relation université-entreprise parce que les universités arrivent à faire des publications et éventuellement mettre des brevets et ils s'arrêtent là. Mais dès qu'on est dans l'inter-entreprise, si vous voulez, la collaboration verticale, elle peut donner ensuite des envies de faire ce que faisait son partenaire, et ce qui arrive souvent. Donc la propriété intellectuelle est vraiment un enjeu, quoi. Et il y a des tentatives d'exclusivité. Souvent, les grands groupes, quand ils travaillent avec des startups, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont demander l'exclusivité Et ils vont même demander à avoir une grande partie de la propriété intellectuelle, voire l'entièreté de la propriété intellectuelle. Donc c'est une grande tension, là, ces enjeux, cette question que vous posez.
Alors il y a un autre exemple dont on a parlé en introduction, sur lequel on peut revenir. Par exemple, la collaboration entre Pfizer et BioNTech, donc le fait de coopérer avec un concurrent, ce qu'on appelle la coopétition, ça a quoi comme avantage pour les entreprises d'opter pour ce type de collaboration ?
Alors, quand on travaille avec un fournisseur, on a cet intérêt qu'on se connaît, qu'il y a une transaction, donc c'est plus facile. Mais le problème quand on travaille avec un fournisseur, c'est qu'on a des chaînes de valeur complémentaires. On n'a pas forcément les mêmes expertises. Et donc ça ne permet pas de croiser des expertises similaires pour améliorer sa capacité d'innovation, en l'occurrence radicale. C'est-à-dire que les meilleurs experts de ce que vous faites, vous, bah finalement, ils sont chez votre concurrent. Vous voyez, il y a des connaissances des marchés similaires, il y a des connaissances des produits similaires, il y a des connaissances des procédés similaires. Donc si vous les mettez ensemble, il y a rapidement des effets d'échelle. Et puis, eh ben, les experts qui travaillent ensemble, si vous en avez 10 chez vous et 10 experts assez proches chez votre concurrent, ben, très vite, vous allez avoir augmenté votre capacité d'innovation. Donc le potentiel en termes de produits de la collaboration, il est très très fort si c'est travaillé avec un concurrent. Par contre, ça augmente également le risque, puisqu'il peut absorber la connaissance aussi de façon beaucoup plus rapide. Donc la coopétition, ça a plus d'avantages en termes de développement de votre capacité d'innovation et ça comporte plus de risques en termes de protection des connaissances.
Et c'est courant ça comme pratique ou ça reste quelque chose d'assez isolé ?
La coopétition ?
La coopétition.
Ah, c'est la forme, c'est la forme de collaboration que les entreprises veulent le moins faire. D'accord ? Ils privilégient l'innovation, la collaboration verticale parce que déjà ils se connaissent entre clients et fournisseurs, ils ont déjà des transactions marchandes, il y a une certaine forme de confiance qui est déjà là et donc pour eux c'est plus facile en fait. Et aller collaborer avec le concurrent, non seulement c'est l'étranger, mais c'est un peu l'ennemi aussi. Mais des fois, ils sont forcés. Pour vous donner un exemple très récent, on vient d'inaugurer Notre-Dame, là. Donc la flèche de Notre-Dame, il a été fait par des concurrents. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit le time to market, c'est temps. Et aucun ne pouvait le faire seul. Et donc, étant donné qu'ils ne pouvaient pas le faire seul, ils se sont mis à travailler ensemble, alors qu'ils ne s'aiment pas trop. Hein. Mais du coup, ils ont réussi à tenir les délais, vous voyez ? Donc, le potentiel, ils ont mis les mêmes experts, des mêmes choses ensemble. Et ça permet de retrouver des procédés de fabrication et de tenir des délais de marché qui ne seraient pas possibles sinon.
Alors, on a un peu répondu à la question, Camille, mais quelle est la collaboration plébiscitée par les entreprises françaises ? Donc, ce n'est pas la coopétition, on l'a compris.
Non. Du coup, c'est bien la collaboration verticale, donc soit avec un fournisseur, soit un client. C'est le cas, c'est ce qu'ont répondu, en moyenne 14% des entreprises qu'on a interrogées qui collaborent. Et ça, encore une fois, parce qu'elles connaissent déjà ces entreprises. Et collaborer, c'est d'accord, mais quand même prudemment.
Alors, vous avez identifié aussi dans ce rapport plusieurs défis que doit relever l'innovation collaborative en France. Différences culturelles, différences d'objectifs ou partage de ressources. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous détailler un peu ces défis qui doivent être relevés pour mieux collaborer ?
Alors oui, par exemple, la différence entre les partenaires, c'est une difficulté rencontrée par 50% des entreprises qu'on a interrogées. Différence culturelle, de taille, de rythme, c'est l'exemple de l'entreprise qui va collaborer avec un organisme public. L'entreprise, elle veut aller vite, elle veut vite mettre sur le marché son produit, tandis que l'organisme public est plutôt là pour la recherche, poser des brevets, sortir des articles de recherche. Donc on voit vraiment qu'il y a un objectif et une culture différente entre ces deux organisations qui, des fois, peuvent ne pas être compatibles et donc qu'il faut gérer.
Alors, pour lever les freins à l'innovation collaborative, vous préconisez un management de la collaboration. Alors, quelle forme il peut prendre, ce management, Frédéric Leroy ?
Alors, de toute façon générale, comme je vous ai dit, le XXe siècle, c'est, disons, le fait de tout faire soi-même. Donc, les entreprises avaient beaucoup d'activités en interne et essayaient d'avoir le plus possible d'activités en interne. Et notamment, évidemment, tout ce qui est recherche et développement. Donc, et avec un management vertical, en fait. Donc, nous, on est habitués, issus d'ailleurs du modèle militaire, à travers un auteur comme Fayol, etc. Donc, la hiérarchie, le modèle hiérarchique vertical à l'intérieur de l'entreprise permet d'augmenter la productivité. C'est ce qu'on a vu au XXe siècle. des coûts, ça permet de beaucoup baisser les coûts sur des produits standards. Au XXIe siècle, la productivité donc, des usines sont en Chine, disons, pour faire simple. Elles ne sont plus en France. Donc le problème, c'est plutôt la créativité. C'est créer des connaissances nouvelles, créer des produits nouveaux, créer des processus nouveaux. Et là, la hiérarchie, ça ne marche pas très très bien, si vous voulez, de façon générale. Donc déjà, en interne, on a créé des structures matricielles, des groupes de projets pour mailler des compétences différentes, pour arriver à cette créativité. Mais en interne, le système hiérarchique, il demeure très fort. Et la créativité, on l'obtient plutôt par l'horizontalité. C'est-à-dire le fait de travailler de façon horizontale et de partager des connaissances et ensemble de créer des choses nouvelles. Et c'est là qu'on est passé donc, de la collaboration interne à la collaboration interorganisationnelle. Mais c'est un chantier, en fait, parce que ça remet en cause toutes les formes de management classiques qu'on connaît depuis qu'on a inventé le management moderne. Donc il y a actuellement beaucoup d'expérimentations sur ce management collaboratif interorganisationnel. En gros, le problème, c'est on a besoin de partager des connaissances parce que si on ne partage pas les connaissances, il n'y a pas de coopération. Mais on a aussi besoin de protéger les connaissances parce que si on partage tout, et si, du coup, on risque de perdre la source d'avantage concurrentiel principale. Donc c'est ça le dilemme aujourd'hui avec et le simple droit, si vous voulez, le droit. Alors, il y a des formes organisationnelles qu'on met en place, des joint ventures, mais ça, c'est 1%, 2% des collaborations. Tout le reste, ça passe par des contrats. Mais les contrats sont nécessairement incomplets, si vous voulez, avec ce problème de tout ce qui est tacite, notamment. Et là, c'est exacerbé quand on travaille avec des concurrents, parce qu'on va faire des équipes communes avec des concurrents. Donc, il y a actuellement beaucoup d'innovations managériales depuis une vingtaine d'années, et il y en a encore d'autres sûrement, pour mettre en place ces nouveaux dispositifs de management, mais qui correspondent à une nouvelle forme de travail, en fait. Et là, je pense qu'il faudrait une émission entière pour répondre précisément à cette question-là.
Et on arrive au bout de celle-ci. Alors, vous évoquez notamment la possibilité de faire appel à un tiers extérieur. On invite les auditeurs qui sont intéressés à aller consulter le rapport, qu'on met bien sûr en lien sur la page de l'émission. Un grand merci à tous les deux, Camille Bilstein, Frédéric Leroy, c'était passionnant.
Merci. Merci à vous, merci pour votre invitation.
À l'année prochaine pour le nouveau rapport. Et j'accueille maintenant notre invité des trois dernières minutes. C'est un habitué de notre plateau maintenant, Thomas Pichéry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de communication à la culture scientifique à l'Université de Montpellier et vous venez nous parler du climat Libé Tour qui, pour sa 8e et dernière étape, pose ses valises à Montpellier les 13 et 14 décembre prochains. Le 13, les échanges auront lieu à l'hôtel de ville de Montpellier et le 14, à Richter, à la faculté d'économie. Alors on commence par le 13. Thomas, quel est le programme de la journée?
Alors la journée débute à 9h30 par un débat auquel près de 80 jeunes, trois classes de CM1 et CM2 vont participer. Il durera jusqu'à 15h. Il y aura à 14h30 l'inauguration du Climat Libé Tour avec Mickaël Delafosse, maire de Montpellier, et Lorraine Provost, directrice adjointe de la rédaction de Libération.
Alors je crois qu'on termine la journée avec un débat intitulé « Précarité énergétique, comment lutter ?» et le plateau proposé est plutôt sympa.
C'est exact. Et effectivement, on a du beau monde, à commencer par Cécile Duflot, ex-ministre du Logement et directrice générale d'Oxfam France, Pierre Arnier, vice-présidente du Secours catholique de l'Hérault, Anthony Cellier, membre de la commission de régulation de l'énergie, et Clément Gaillard, urbaniste spécialisé dans le design climatique.
Le 14 décembre, donc, l'événement migre à Richter, à l'amphithéâtre Jean-Baptiste, où après l'ouverture de la journée par Lorraine Provost, donc la directrice adjointe de la rédaction de Libération, et Frédéric Carcaillet, la vice-présidente déléguée aux enjeux environnementaux de l'Université de Montpellier, on attaque avec une masterclass du physicien Étienne Klein.
Oui, tout à fait. La masterclass s'intitule d'ailleurs « De quoi l'énergie est-elle le nom ?». Elle sera suivie à 14h d'un débat sur le nucléaire. Nucléaire ou renouvelable, faut-il choisir? C'est un débat centré sur le mix énergétique français et sa résilience face au réchauffement climatique.
Et à 15h, nouvelle masterclass avec le philosophe Pierre Charbonnier sur le thème de l'écologie de guerre, suivi d'un entretien avec Jean Massier, c'est ça?
Tout à fait. L'entretien avec Jean Massier portera sur le thème « Des jeunesses et un climat » qui mettra en lumière les générations dites « climat » caractérisées par des jeunes prenant la parole et se mobilisant pour leur avenir.
Alors deux jours bien fournis, c'est ouvert à tous et toutes bien sûr, c'est gratuit?
Oui, c'est gratuit, mais il faut cependant s'inscrire et vous pouvez trouver le lien d'inscription directement depuis le site de Libération.
Et on le mettra aussi, je pense, en lien sur la page de l'émission. Merci beaucoup Thomas.
Merci à vous.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Roland pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.